Est-ce qu'il m'entend ?
Je ne peux pas vous l'assurer. Pour ma part, j'aime à penser que oui.
Vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien à faire ? Vous ne pouvez plus le sauver ? Le médecin secoue la tête, puis retire ses lunettes. Ses yeux gris, presque translucides, sont désolés pour moi. Une fois de plus, son humanité me touche. Et si je dis « une fois de plus », c'est parce que ce médecin ne m'est pas inconnu. Nos routes se sont déjà croisées. Lui m'a oublié, forcément. Moi, son visage est ancré dans ma mémoire. De cette froide soirée de décembre 2022 durant laquelle il m'avait annoncé l'atroce nouvelle qui avait plongé notre existence dans les ténèbres, je me souviens de chaque instant. Je peux encore ressentir l'atmosphère glaciale qui régnait dans cette minuscule pièce des urgences à l'éclairage blafard où mon univers s'était écroulé. Au plafond, des néons fatigués diffusaient une lumière pâle. L'un d'eux, défectueux, clignotait sans relâche. Sur les murs, une misérable guirlande de Noël était scotchée, ornée de petites étoiles pourpres, de la même couleur que les traces de sang séché qui zébraient mes jambes. Ce soir-là, j'étais seule, aussi seule que je le suis maintenant. Dans ma blouse d'hôpital, à moitié nue, je grelottais. Le froid était omniprésent et mordait chaque parcelle de ma peau. Le médecin l'avait remarqué et m'avait apporté un chocolat chaud en même temps que les résultats de mes examens. 9 mois se sont écoulés, et le voilà du haut de son 1,90 m, bras ballants, revenant m'annoncer que la grande faucheuse est de nouveau à ma porte. Car à entendre son discours, je n'ai aucun espoir à nourrir. Stan est foutu. Notre histoire d'amour s'apprête à vivre son clap de fin. Et aucun happy end n'est prévu au scénario.
Malheureusement, j'aimerais vous apporter une réponse plus optimiste. Mais cette nuit, nous avons tout tenté pour le sauver. Stan ne se réveillera pas. Ses fonctions motrices, ses organes vitaux, me dit-il en désignant les parties de son corps au fur et à mesure qu'il les énumère, sont en train de le lâcher un à un. Et croyez-moi, pour avoir suivi de nombreux patients dans un état de loctine, il vaut mieux qu'il parte paisiblement plutôt qu'il rouvre les yeux un jour prisonnier de son propre corps. Ce serait le pire des châtiments, pour lui comme pour vous.
À peine a-t-il fini sa phrase qu'une douleur intense, semblable à une crampe, me saisit. D'une main, je serre le drap du lit sur lequel Stan est allongé. De l'autre, je me tiens le bas du ventre, comme pour empêcher mes tripes de sortir de mon corps. J'ai l'impression qu'une force maléfique, sorte de bête aux mains immondes et crochues, me perfore les entrailles de ses griffes acérées. J'ai mal. C'est fou. J'ai l'impression qu'il est juste...
Impossible de terminer ma phrase. Ma gorge est prise dans un étau. Un tsunami est en train de me submerger. Voyant que je me noie de l'intérieur et que je suffoque, il vient à mon secours, pose une main sur mon épaule et continue à ma place d'une voix douce.
Endormi. C'est vrai. Pourtant, si nous arrêtions cette pompe, il partirait en quelques minutes. 1 heure peut-être.
J'explose. Les larmes déferlent en cascade sur mes joues. J'enfonce mon visage entre mes mains. Comment a-t-on pu en arriver là ? Vers 23h30, hier soir, je venais de m'assoupir sur le canapé lorsque j'ai reçu un appel. À l'autre bout du fil, une voix féminine, très douce, m'avait annoncé que Stan avait eu un accident, qu'il allait être transporté à l'hôpital. Mes réponses avaient été une succession de murmures inaudibles. Des « oui », quelques « je ne sais pas » et un « bien sûr, j'arrive tout de suite ». Puis j'avais raccroché. Mon portable vissait à l'oreille. J'étais restée scotchée au mur du salon. À la télé, les informations tournaient toujours en boucle sur la chaîne en continu. Sur la table, la bouteille de vin rouge, vide, que nous avions ouverte quelques heures plus tôt. C'est alors que j'avais commencé à rembobiner le film de la soirée, déroulant la pellicule, image par image, du dîner à notre dispute, jusqu'à ce que Stan quitte l'appartement. Mais l'avait-il vraiment quitté ? Mécaniquement, j'étais allée voir dans toutes les pièces. Dans une sorte de transe, j'avais soulevé la couverture, cherché dans la penderie, regardé sous le lit et même éventré la panière à linge pour être sûr qu'il ne s'était pas caché dedans. Si c'était une erreur,
un autre Stan possédant la même moto. Peut-être avais-je rêvé et ce coup de fil n'avait jamais eu lieu. Il m'a suffi de dérouler l'historique de mes appels pour que la réponse m'apparaisse clairement. Le dernier provenait de l'hôpital Antoine Béclair, à Clamart, 7 minutes plus tôt. Dans une dernière tentative désespérée, j'avais appelé Stan et activé le haut-parleur. Mes mains tremblaient tant qu'on aurait dit qu'elles étaient en mode vibreur. Sa boîte vocale s'était enclenchée instantanément, sonnant le glas. Et alors que sa voix résonnait dans l'appartement, un souvenir m'était revenu. Celui du jour où j'avais trouvé dans son porte-monnaie une photo de moi. Au dos, il avait griffonné mon numéro.
On ne sait jamais, imagine que j'ai un accident. Plus d'empreintes digitales, impossible de déverrouiller mon tel. Suffit de fouiller dans mon porte-monnaie, de sortir ta photo et te voilà prévenu en moins de 2. Malin, non?
Il n'y avait plus une minute à perdre. J'avais enfilé sa veste de jogging à capuche grise, encore imprégnée de l'odeur de sa cigarette. Et j'étais partie le rejoindre. Quand je sors de mes pensées, rien n'a changé. Tout semble figé, le temps est suspendu. Le monde entier retient-il son souffle, ou suis-je la seule? En tout cas, Stan gît toujours là, immobile et dépouillé de toute vitalité. Le médecin continue de me scruter. La compassion s'est incrustée dans les creux de ses traits fatigués.
Il faut le débrancher alors.
En prononçant cette phrase qui réduit l'amour de ma vie au statut de machine, je m'écroule. Le boomerang me revient en pleine face. Je réalise que plus jamais je n'entendrai le timbre de ta voix ni ne sentirai l'odeur de ta peau. Plus jamais je ne caresserai la courbure de ton épaule menant à ta nuque, ce chemin que j'aimais tant parcourir du bout des doigts. Plus jamais je ne verrai ton sourire. Tous ces petits détails qui te façonnaient, toi, et que j'ai négligés ces derniers mois, sont des spectres du passé. C'est bien vrai. Je vais devoir composer sans toi à mes côtés. Ma tête vrille, mon esprit vacille. Je bascule dans le vide. Les murs de la chambre d'hôpital peints d'un bleu canard tournoient autour de moi. Mes jambes s'enlisent. Elles ne supportent plus le poids de mon corps. Et puis elles flanchent. Je n'entends même pas les mots du médecin pendant qu'il m'aide à m'asseoir. Tel un pantin désarticulé, je le laisse m'installer sur la chaise.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Cette phrase, je la répète plusieurs fois en me balançant d'avant en arrière, comme possédée. Mes mains sont plaquées sur mes oreilles, tentant de bloquer les bip-bip incessants des machines. Finalement, je m'effondre contre le lit et je pose mon visage sur le torse de Stan. Une main sur sa poitrine, l'autre sur sa cuisse. Là, je prie très fort tous les dieux de l'univers de m'extirper de ce cauchemar. De faire que, par je ne sais quel tour de magie, rien ne soit réel. Et qu'en rouvrant les yeux, je sois téléportée dans notre lit. Stan serait là, juste à côté de moi. La tête sous l'oreiller et une jambe débordant du matelas. Alors j'écouterai le son régulier de sa respiration en me disant qu'elle est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Et on recommencerait à zéro. On oublierait tout. On s'aimerait toujours. On s'aimerait si fort que jamais il n'aurait eu à quitter notre appartement, furieux. Et jamais il n'aurait eu cet accident. Les secondes s'écoulent. Les minutes, peut-être. Les yeux fermés, je continue d'implorer les forces surnaturelles pour que le miracle se produise. Malheureusement, la main du médecin qui se pose une nouvelle fois sur mon épaule, elle, est bien réelle. Et elle me ramène à l'insupportable réalité.
Est-ce que je peux me coucher à côté de lui?
Je demande d'une voix tremblante.
Je voudrais...
Une fois de plus, ma phrase reste en suspens. Allez-y, installez-vous. J'ai plusieurs patients à visiter, nous nous reverrons plus tard. Surtout, faites-moi appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis le docteur Conrad. Je réponds par un hochement de tête pendant qu'il s'évanouit derrière moi. Lorsque j'entends la porte se refermer, je grimpe délicatement sur le lit et je m'allonge tout à côté de Stan. Avec une précaution extrême pour ne pas arracher les cathéters insérés dans ses veines, je réussis à me blottir aussi près que les machines le permettent, cherchant son contact pour trouver un fragment de l'homme que je connais. Un tube est enfoncé dans sa bouche, il y a des fils partout. Ces connexions le maintiennent ici, avec moi, dans cet état entre la vie et la mort. Mais où se trouve-t-il exactement ?